Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Grenouille ou sur le www.radiogrenouille.com. Vous allez pouvoir écouter une émission spéciale Free Party, une histoire, des histoires. C'est le titre du dernier livre de Guillaume Kosmicki que vous avez déjà entendu sur ces ondes. Écrivain et chercheur spécialisé sur les musiques électroniques, Musiques électroniques était d'ailleurs le titre de son précédent livre aux excellentes éditions Le Mot et le Reste, dont on vous a déjà parlé sur ces ondes. Avec Free Party, une histoire des histoires, Guillaume Kosmicki livre une somme inédite et très documentée, retraçant l'histoire de ce mouvement alternatif qui a connu en France notamment des évolutions contrastées. Le 10 novembre 2010, la parution de Free Party, une histoire des histoires, donnait l'occasion au Da Killing et à l'auteur lui-même de proposer une rencontre autour de la sortie de son livre, mais aussi du documentaire qui a fait pas mal de bruit, Heretic System, We Had a Dream, réalisé par Damien Raclot-Doliac. La projection de ce documentaire We Had a Dream était suivie d'une discussion avec Guillaume Kosmicki, accompagné de trois témoins de cette époque Free Party interviewés dans le livre, Raph d'Occupé Sound Conspiracy, Zul de Metek et Emric d'IoT Records. La soirée se terminera par un live set de Fudge d'IoT Records, mais avant, nous vous proposons donc d'écouter cette rencontre avec Guillaume Kosmicki et ses invités, modéré par Robex pour Radio Grenouille. Bonne écoute.
Alors après la projection du film Heretic System, ici au Da Killing, petit débat autour du livre de Guillaume Kosmicki, Free Party, une histoire des histoires, aux éditions Le Mot et le Reste. Vous savez que cette soirée a été organisée aussi en collaboration avec IoT Records. Alors le livre de Christophe Kosmicki, c'est un livre qui a été écrit pour se faire une idée de la branche clandestine et radicale des raves, c'est-à-dire on ne tombe pas sur des choses plus organisées. Free Party, une histoire des histoires. Alors Guillaume, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
D'où est partie l'idée d'écrire ce livre, de recueillir les témoignages de ceux qui ont vécu les Free Party de l'intérieur?
Moi, de mon côté, ça fait quand même un bout de temps que je recueille du témoignage de ce mouvement, parce que je l'ai abordé, on va dire, sous deux casquettes. J'étais teufeur, ça c'est certain. À la base, je suis parti dans la découverte de ce mouvement, comme beaucoup de gens ici, comme un teufeur. C'est-à-dire, j'ai commencé en 94 avec des découvertes... assez intense, des découvertes esthétiques et aussi des engagements particuliers. Et puis, comme j'étais étudiant en musicologie, assez rapidement, je me suis dit que ça pouvait... c'est un professeur aussi qui m'a orienté là-dessus, qui m'a dit que ça pouvait éventuellement faire l'objet d'une recherche. Donc j'ai abordé ça avec deux casquettes depuis ces années-là, depuis 95-96, et ça m'a permis en fait d'emmagasiner un ensemble de témoignages, de photos, d'éléments qu'on n'a pas forcément l'idée de conserver quand on est en plein dedans. Moi, si j'avais été seulement teufeur, je ne suis pas sûr que j'aurais emmagasiné les infos que j'ai emmagasinées. J'avais ce double regard... je faisais vraiment la fête hein, comme tout un chacun, mais aussi de temps en temps j'y allais aussi pour recueillir des paroles, recueillir des idées, essayer de voir ce qu'il en était. Donc je me suis fait une mémoire un peu de ces années que j'ai traversées, et en fait là tout simplement ce livre là c'est pas tous les témoignages que j'ai emmagasinés pendant ces années là mais en fait j'ai largement profité de toutes ces connaissances que j'avais pu me faire pendant ces années de fête, et j'ai pu profiter d'un réseau et revoir pas mal d'anciens copains et puis en découvrir d'autres parce que le réseau était en place. Donc c'est pas forcément une idée qui était nouvelle, mais dans cette forme là vraiment faire un truc avec que du témoignage et aucun commentaire de ma part, il n'y a pas de superflu, d'analyse sociologique ou autre, c'est vraiment du témoignage pur et dur. En tout cas sous cette forme là c'est né il y a au moment où le livre a commencé, ça fait un an et quelques mois, quoi, un an, quatre mois.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est que tu es par ailleurs teufeur, mais aussi musicologue, sociologue.
Musicologue, ouais.
Voilà. voilà, ça t'a permis de développer aussi cette écriture autour de ça, autour de la fête, parce que c'était ton milieu aussi.
Ben, disons que là, je l'ai pas écrit, hein, le livre. C'est vraiment pas moi. J'ai laissé la parole aux autres.
Tu l'as mis en forme.
Je l'ai mis en forme. C'était une histoire, quoi. C'est vrai, mais c'est vraiment les autres, parmi les gens qui sont là aussi ce soir, et puis beaucoup même qui sont dans la salle, c'est beaucoup de gens. 42 personnes, pour le dire clairement, qui ont raconté et qui se sont livrées avec le plus d'honnêteté possible. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent dans ces lignes-là, qui m'ont raconté des choses extrêmement intimes, profondes, de leur, finalement de la manière dont ça a changé leur vie. Hein, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, je pense, ça a changé la vie de tous ceux qui sont investis à un moment ou à un autre dans ce truc-là. Quoi.
Alors pourquoi avoir, puisqu'il y a les rêves, il y a plusieurs appellations, etc., avoir précisément choisi Free Party ? Avoir gardé que cette base plus rebelle de la rave.
Alors c'est vrai que moi, quand j'ai découvert la fête techno, j'étais aussi bien rave que free party, mais très rapidement, en fait, ce mouvement-là, par ses valeurs et par la liberté qu'il a, qui est intégrée, partie intégrante de ces manières de faire, c'est le truc qui m'a le plus séduit. Pour moi, et je sais que c'est un gros mot pour certains ici, pour moi, c'était un truc purement politique et militant. Et j'y ai trouvé, moi, en tout cas, une réponse à mes idées sur le monde, sur la société. Donc, c'est la free party qui m'a intéressé plus que d'autres. C'est là où je me sentais le plus en lutte ou en combat contre des valeurs dominantes. Et c'est vrai que je pense que les gens qui sont là ce soir vont pouvoir étayer là-dessus. Mais je pense que c'est ce qui m'a vraiment le plus frappé dans ce genre de fête, cette liberté énorme qu'on voit notamment dans ce film Hérétique qui vient de passer.
Ce qui nous fait kiffer, je pense, c'est de continuer à faire avancer le groupe. C'est ça, c'est de continuer l'aventure. C'est pas, je sais même pas si c'est la fête en tant que telle, c'est de monter d'un cran, c'est d'avancer encore et d'avancer encore ensemble.
Alors justement, tu parlais des invités, 42 témoignages, enfin environ.
Alors là, il n'y en a que 3.
Là, il y en a 3 qui sont présents dans le livre.
Mais quels 3 ?
Voilà, alors on va commencer par Zol du collectif Metech. Bonjour.
Bonjour. Bonsoir. Donc je m'appelle Zoul, du Centre Système Metech. On organise des frites depuis 1996. On est un groupe d'amis. On se connaît depuis très longtemps, en fait, hein, depuis l'époque du collège, du lycée. On a rencontré la frite avec les teufs d'occupés, les teufs d'espi. C'est ce qui nous a donné envie d'en faire. On continue encore aujourd'hui sur d'autres formes, moins nombreux. Ça a été pour nous... c'est difficile d'en parler comme ça, mais on en parle tous dans le livre. Effectivement, dans le livre, on parle de nos parcours de groupe, de nos parcours individuels. C'est ça aussi qui est intéressant dans le livre que tu as fait, Guillaume, c'est de découvrir plein de parcours, de gens qu'on connaît, de gens qu'on ne connaît pas aussi, de voir comment on est venu à l'Afrique, comment ça a changé notre vie, parce qu'effectivement, c'est ça le point commun, je pense, de tous les témoignages du bouquin, et qu'on voit aussi dans le film qu'on a vu ce soir. C'est un bon lien, je pense, avec le bouquin, justement pour ça, de voir la manière plus ou moins personnelle, intime qu'on a eue de parler nos expériences dans le livre, et puis de voir qu'en fait, tout ça, il y avait quand même un fond commun. Pour notre part, on était un groupe de 10 personnes, donc juste une personne là ce soir pour en parler, ça fait... Il aurait fallu qu'on soit tous là. Il me semble que même dans la salle ce soir, il y a des tas de gens qui ont vécu ce que nous on a vécu. Quoi dire de plus ?
Alors tu connaissais aussi Emmerich et Raph ?
On s'est croisés avec Raph énormément aussi.
Il y a des gens qui sont arrivés, et puis il y en a certains d'entre vous qui ont dit non, mais c'est pas notre génération.
Bref. Oui, non, oui, apparemment on est censé représenter la old school, on est censé représenter les vieux de la vieille. Enfin, excuse-moi, Zoul.
Les années 90.
Je ne dirai pas mon âge ce soir, mais effectivement.
Je sais que tu as toujours 18 ans, et Emmerich aussi. Voilà, apparemment on est censé être les vieux de la vieille. On est censé dire que c'était mieux avant, en fait.
Bref, présentation de ton collectif et comment tu es arrivé à.
Mon collectif n'existe plus. Enfin, je ne représente personne ni dans le bouquin ni maintenant. Ceci dit, j'ai fait partie du label Cagnard. J'ai créé le label Cagnard avec d'autres personnes aussi qui sont présentes ici aussi. J'ai fait partie du Sound System occupé et j'ai fait partie du Sound System Sound Conspiracy. Donc, mais je ne peux pas parler au nom de ces trois entités, sinon je risque de mourir d'un coup de Kalachnikov en sortant.
De toute façon, tu vas parler en ton nom.
Je peux parler en mon nom aussi. Non, mais je veux dire plus sérieusement, c'est difficile, comme le disait Zoul, de parler au nom de... Je veux dire, à un moment, le Sound System Sound Conspiracy, c'était pratiquement 30 personnes. C'est difficile de parler au nom de 30 personnes et c'est très difficile de plaquer sa propre expérience sur quelque chose qui s'est passé de manière communautaire déjà et d'une et avec des visions complètement différentes. Il y en avait comme le disait Zoul ou comme le disait Guillaume, il y en avait qui étaient plutôt axés qui étaient bien politisés, qui avaient envie de tout niquer, qui avaient envie de niquer la société.
C'est un peu ton cas d'ailleurs.
Peut-être. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais il y avait aussi des gens qui étaient là vraiment que pour la musique. Il y avait des gens qui étaient là que pour la fête. Même si sans s'en apercevoir, involontairement, ce qu'ils faisaient, c'était politique. Enfin, c'est mon analyse à moi. Il y avait des gens qui étaient là vraiment parce que le mode de vie communautaire qu'on avait, le mode de vie d'être sur la route, d'organiser des sous-systèmes, d'organiser des teufs, de faire des trucs comme ça, ça leur convenait, quoi. Donc il y a tout un tas d'expériences, je ne peux pas parler au nom de toutes ces expériences-là en tout cas.
Dans le livre, ce que j'ai demandé aux 42 personnes qui ont parlé, alors il y en a qui ont parlé quand même au nom d'un Sound System parce qu'ils existent encore aujourd'hui, j'ai eu aussi des jeunes qui sont très très actifs, voire même qui représentent des valeurs que j'entendais, et je les entends parler avec un discours et une fraîcheur que j'entendais moi dans ce que je recueillais déjà des 95-96. Mais c'est vrai que je me suis vraiment focalisé sur des témoignages extrêmement personnels. C'est vraiment ce que toi tu as en tiré. Parfois on parlait de groupe, parfois on parlait des valeurs d'un groupe, mais c'est vraiment ce qui m'a intéressé, c'est ça, parce que l'histoire de la Frise, c'est pas une histoire qu'on peut écrire dans un livre d'histoire officiel avec une série d'événements, des dates que tout le monde reconnaît, etc. Personne ne reconnaît un ensemble de choses, mais en fait, c'est vraiment un truc qui est fait sur des histoires, sur des témoignages personnels, sur des parcours personnels qui se sont retrouvés sur des valeurs. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est vraiment, il faut pas. Il y a souvent une modestie de la part des témoins que j'ai eus de dire mais moi je suis pas représentant, je suis pas. C'est pas ce que je recherchais. En fait, on est tous représentants. Et dans le livre, j'ai pris aussi des gens qui n'ont jamais été membres d'un Sound System. Je me suis imposer ça quasiment, mais c'était ça coulait de source. Aussi des gens qui ont fait de la cuisine, de la bouffe à prix libre pendant des années sur des frits. Aussi des gens qui ont fait des pratiques artistiques autres que la musique, mais qui sont pas aussi visibles, aussi flagrantes quand on entend le gros boum boum des fêtes. Et tout ça, ça a fait la Frie, tout ça, ça a fait ce qu'est la Frie. Et je pense que tous ceux qui l'ont vécu profondément et qui l'ont ressenti profondément dans leur vie, ils ont tous leur voix au chapitre. Et le livre, il aurait pu être écrit avec le même poids, avec 42 autres personnes, et il pourrait y en avoir 10 ou 15 ou 20 d'écrits avec 42 autres personnes à chaque fois. Ça marcherait tout aussi bien, j'en suis persuadé. Tout cela sans vous enlever la qualité de vos témoignages, bien entendu.
Non, mais je pense que ce que tu dis, c'est un point important de ton bouquin, c'est qu'effectivement, ce qui est important, c'est que c'est pas uniquement des sound systems, c'est pas uniquement notamment des DJ. Souvent, ce qui est mis en avant, ça va être l'organisation, ça va être l'organisateur, ça va être celui qui fait la musique, celui qu'on voit derrière les platines, ou celui qu'on voit derrière le live set. C'est les gens qui sont mis entre guillemets sous les projecteurs, même si le principe de la free party, c'est de mettre personne sous un projecteur. Et ce qui est bien dans ton bouquin, c'est que ça donne la parole justement à l'ensemble des gens qui ont fait vivre ce mouvement. Si le mouvement, c'était deux organisateurs et quatre DJ, il aurait pas... ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est indéniable. Et ce qui est riche dans les témoignages, moi, ton livre, je l'ai feuilleté, hein, c'est un pavé, je l'ai reçu il y a 3 jours, donc effectivement...
Tu l'as reçu dans la tête.
Ouais, je l'ai reçu dans la tête, quoi. Moi, j'ai eu envie d'y participer parce qu'on se connaît depuis des années et que quand tu m'as contacté, ça m'a paru comme une évidence. On a fait les premières interviews ensemble, je crois que c'était en 97 ou 96, 97, quand on avait le squat à Vauvargue, avant même qu'on fasse notre premier technique avec du son, etc. Donc, ça m'a paru comme une évidence, mais en soi, je trouve que le projet, c'était un projet justement pour ça, pour pas se focaliser uniquement sur l'organisation, son système le plus apparent, et montrer que la Frise est bien plus large que ça. C'est des énergies beaucoup plus diverses et beaucoup plus variées, et ça le reflète bien, et voilà, ça rend justice un peu à l'ensemble des acteurs, quoi.
On va un petit peu approfondir. Bah, avant ça, on va présenter Emeric. Emeric, collectif.
Bonsoir. IOT.
IOT.
Bonsoir.
Ce qui veut dire dans le détail, IOT
IOT pour In-Out Through, c'est le langage MIDI pour les machines qui communiquent entre elles. Donc c'était vraiment utilisé par toutes les personnes qui faisaient du live à l'époque. Donc on a gardé ça pour le nom du label. Sinon, dans mon historique, on va dire, j'ai commencé un petit peu avec un son qui s'appelait Telluric Sound System, avec 5 potes, et ensuite on a rejoint un autre groupe qui s'appelait Tomahawk Sound System, qui s'est transformé plus tard en Drop In Posse, et qui continue, enfin certaines personnes continuent encore, qui sont en Amérique du Sud, et continuent à voyager, et à faire des fêtes à gauche à droite, voilà.
Vous êtes aussi partenaire de cette soirée, avec les éditions Le Mot et le Reste, qui ont édité le livre Les Free Parties, une histoire des histoires. Alors justement, si on rentre dans le détail, l'approche sociale de la Free Party, on parlait du côté rebelle, les gens qui ont participé dès le début aux Free Parties, ils viennent d'où ? C'est quel public ?
Je pense que ça a été un mélange de pas mal de choses, de plein de couches sociales différentes qui sont retrouvées sur un point commun qui était la musique. À mon avis, qui était la musique, hein, là, c'est pareil, moi, je parle toujours en mon nom, hein, je ne parle pas au nom des autres ou des personnes avec qui j'ai fait des choses, mais pour moi, l'élément fédérateur, il a d'abord été la musique. Il a pu après être un mode de vie, hein, un moyen de s'exprimer et de sans doute aussi essayer, voir, découvrir comment les choses pouvaient se faire ailleurs. Mais pour revenir sur la question de qui a participé à ces choses, je pense que ça pouvait être aussi bien des gens qui avaient fait des études, d'autres qui avaient été à la rue très tôt. Je pense que tout le monde s'est mélangé pour suivre un objectif commun, à mon avis.
Moi, c'était la musique, mais pour changer le monde. Moi, je pensais vraiment qu'on allait changer le monde. J'y crois toujours, mais peut-être pas avec ce moyen-là. Mais pour moi, c'était changer le monde. C'était changer déjà mon univers, ma manière de penser le monde. Et donc, je pouvais penser, comme d'autres, hein, je sais, parce qu'on en discutait, je pensais qu'on allait réussir quelque chose. C'était extrêmement naïf, mais
c'est pas nos futurs comme certains ont dit dans le film.
Non, c'était changer les choses, changer les mentalités, c'était notre mouvement, notre manière de le faire, notre manière de communiquer, notre manière de vivre. C'est un gros mot, hein, pour beaucoup, mais pour moi c'était entièrement politique, voilà. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est comme ça que je les ressens encore aujourd'hui profondément. Mais encore une fois, chacun a sa vision du truc. C'est un des rares mouvements, je pense, d'ampleur quand même, où chacun pouvait penser son truc, chacun pouvait avoir son milieu d'origine, parce que c'est pas un mouvement de classe non plus, c'est pas un truc où il y a eu un milieu vraiment d'où il fallait venir, hein, une sorte de volonté. On pouvait venir de tous les trucs, et je pense qu'il y avait un très beau projet, quoi, et j'y ai adhéré, mais complètement pendant plusieurs années, jusqu'à la déception, mais quand même, j'y ai adhéré complètement de ce point de vue-là, moi.
On va revenir sur la déception, mais...
Non, je disais que c'est que ça va vite, en fait. Une fois qu'on est dedans, qu'on est avec un groupe de personnes, puisque moi, je pense que c'est vraiment... c'est des entités, c'est des individualités, mais c'est vraiment un groupe qui porte ce qui se passe. Les soirées, tout ça, c'est porté par un groupe. Et ça va vite. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment réfléchi sur l'impact politique, social ou tout ça. On faisait ce qui nous plaisait et on se posait pas de questions sur la manière de le faire. On avait un objectif, diffuser du son, et tous les moyens pour y arriver étaient bons. Donc c'est passé trop vite. Moi, maintenant, peut-être en réfléchissant, on peut avoir du recul en se disant « Ok, ça peut avoir une incidence sur une société, quelque chose », mais moi, c'était vraiment dans l'action, quoi. J'ai pas eu l'impression de réfléchir et de me dire ce que je fais a un impact politique ou social. C'était le faire pour le faire, parce qu'on aimait faire ça, en fait, je pense.
Attentat sonore, quoi. Je me dis, on fait de la politique et de la musique.
Dans les partis plus politiques, entre guillemets, classés à gauche, comme on dit en France, ou à droite, ça se situe à quel endroit comme revendication ?
L'extrême.
Anarchiste.
À l'extrême de l'extrême. Il n'y avait pas de parti. C'est clair que les communautés telles qu'on les a vécues, nous, enfin telles que moi j'ai vécu avec Occupé ou Centre Conspiracy, Si ensuite on se réfère à certaines théories politiques, tout ça, c'est vrai qu'on était plus proche de certaines communautés anarchistes ou même certaines communautés libertaires. Mais c'est vrai que plus des trois quarts des gens qui y étaient ne le savaient même pas. Ils le faisaient parce qu'on le vivait, c'est tout, quoi. Moi, je l'analysais comme ça parce que j'avais lu des bouquins libertaires, j'avais lu des bouquins anarchistes, donc je me disais, putain, c'est carrément... C'est hallucinant, quoi. Je suis en train de vivre ce que j'ai lu. C'était complètement hallucinant. Mais la plupart des gens qui le faisaient avec moi le faisaient sans même y réfléchir, comme le disait Aymeric. Il n'était pas question de théoriser quoi que ce soit. Il n'y avait pas de message. Le message était dans l'art, dans la musique, et le message était surtout dans notre mode de vie. C'est-à-dire que quand les gens arrivaient à une teuf ou arrivent maintenant à une teuf, il n'y a pas un message précis écrit qui dit tu dois faire ça, ou tu dois vivre ça, tu dois pas vivre ça. Mais par contre, les gens qui font cette teuf-là, on voit bien qu'ils n'ont pas une vie comme... c'est assez compliqué à expliquer, mais enfin, le message est dans notre mode de vie.
Et dans la musique aussi, parce que...
Et dans la musique, mais...
Il a existé plusieurs courants dans les free parties, il n'y a pas forcément une seule musique, il y en a plusieurs.
Il n'y a pas qu'une seule musique, c'est vrai, mais ça aussi j'aimerais bien le préciser, c'est que c'est vrai qu'on a tous, et principalement les gens, les médias, les teufers, tout ça, on a tous bien bloqué sur la musique, mais c'est vrai que la teuf, c'est quand même pas que la musique, il y a tout un environnement artistique qui va autour... qui était généré par tout un tas de gens qui faisaient des créations, des sculptures, des teintures, des vidéos, et tout ça. Enfin, si on met que la musique tout seul dans une pièce carrée où il n'y a rien dedans, je ne sais pas si ça donne la même chose. Il y avait des gens qui étaient chargés de faire les lumières, il y avait des gens... C'est vrai que la musique, ça paraissait l'élément le plus important, parce que c'est toujours l'élément porteur dans n'importe quel mouvement musical. On a toujours l'impression que c'est la musique qui est le plus important. Moi, j'avais l'impression de vivre entouré d'artistes, quels qu'ils soient, même des artistes mécaniciens ou des artistes ou des très bons cuisiniers qui étaient là pour nous faire la cuisine qu'il fallait après 3 jours de teuf par exemple. Enfin, j'avais toujours l'impression d'être entouré de gens qui étaient super impliqués dans tout ce qu'on faisait et qui faisaient ça pas uniquement pour eux et pas uniquement pour se faire valoir, pour se porter, mais pour la communauté et pour le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement pour la mission.
En fait, vous précisez ça comme être artiste d'un ensemble de choses et d'un mouvement, et pas artiste que de musique.
La vie est un art dans ce truc-là. La vie, c'était quasiment du matin au soir, c'était une forme d'art, et c'était pour moi aussi la forme de contestation. C'est le plus difficile à expliquer pour moi devant des gens qui sont des militants politiques, qui pensent par des différents trucs traditionnels de contestation, de militantisme, etc. C'est pas du militantisme de ce genre-là, c'est une contestation et c'est une manière de changer le monde par ton investissement et ta vie de tous les jours, du matin au soir. C'est ce qu'explique Raph très très bien. C'est la musique, c'est vrai, mais c'est aussi faire de la bouffe au bon moment, donner la bouffe quand les gens... Ben, c'est vraiment un truc de solidarité comme j'en ai pas retrouvé, moi, rarement retrouvé, en tout cas en petite communauté, à ce niveau-là, à cette échelle-là. Là. C'est sûr que c'est dans la vie quotidienne et dans toutes les heures de la journée que ça se passait, quoi. Contestation et forme artistique.
Je crois que le choix politique, il est là, qu'il était, comme tu disais, Raph, conscient ou pas. Certaines personnes avaient une conscience politique avant, étaient engagées ou dans des mouvements politiques d'extrême gauche ou anarchistes, avaient déjà... moi, personnellement, quand j'étais au lycée, je faisais partie des jeunesses communistes, donc j'ai eu une conscience politique, ça m'intéressait. Vous pouvez huer, ce n'est pas grave, j'assume totalement, hein. Mais merci, camarade. Et donc, effectivement, pour les gens qui avaient comme ça un passé politique, il y a eu cette conscience politique de voir les choses dans le mode de vie. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus instinctif. La vie communautaire, la vie en groupe, le fait de tout partager, le fait de vivre ensemble, ça, c'est un vrai choix politique, qu'il soit conscient ou pas conscient. Le fait de dire, moi, j'ai de la thune, avec cette thune, on achète le son, mais le son, il est pas à moi, il est à tout le monde. Moi, j'ai de la thune, avec ma thune, on achète un camion, et cette camion, c'est la maison de tout le monde. Ça, c'est un choix politique, qu'il soit conscient ou qu'il soit pas conscient. Le fait de dire, moi, le monde, comme il fonctionne, m'en fous, ça m'intéresse pas du tout. Je veux monter un truc pour moi, pour mon groupe, pour me faire plaisir, pour faire des teufs gratuites, parce que le fric, ça m'intéresse pas. Dans le monde où on vit, dire ça, c'est un choix politique. Que tu aies une expérience politique ou pas, que tu l'aies conscientisée ou pas. Et nous, jamais, quand on a fait une free party, on s'est dit, on fait un acte militant, on fait un acte politique, on veut donner un message politique aux gens. Ça n'a pas été notre credo, on n'est pas parti sur ça. Je pense qu'effectivement, quand il y a des gens qui sont venus, ils ont reçu ce message comme quand nous on l'a reçu, quand on a fait des flics, qu'on a vu, qu'on a eu envie d'avoir ce mode de vie-là et cette vie-là.
Voici le plus grand flyer jamais réalisé pour un Technival. Nous sommes à la frontière entre la France et l'Italie, l'endroit rêvé pour une zone d'autonomie temporaire.
Le fait de voir un film comme Hérétique, au même titre que le rock'n'roll ou d'autres styles musicaux comme ça, les gens qui ont fait des raves, des free parties, sont dans un mouvement musical qui va rester, marquer l'histoire.
Mais c'est déjà dedans. Moi, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, mon activité principale, c'est, ça vient de là, quoi. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le dois à ce que j'ai pu vivre en faisant des free parties. Donc la musique a été générée pendant toute cette période, elle continue à vivre, continue à évoluer, il y en a d'autres qui sont là, et oui, c'est un mouvement musical à part entière, qui ne vient pas de là. La musique électronique, elle vient pas de la free party,
oui,
quoi. Elle a été développée d'une certaine manière par les acteurs, tous les gens qui ont participé à ça, mais free party, musique électronique, la musique électronique aurait existé sans la free party.
Je pense plus au mouvement en général dont vous parlez depuis tout à l'heure. Finalement, vous rentrez aussi dans le moule de la société à un moment donné,
sûr.
On l'a vu dans le film. Ce mouvement, il s'est épuisé. Qu'est-ce qu'il en
non,
reste ?
Non, non. En fait, vivre 4-5 ans comme ça, tout le temps à gauche, à droite, faire des soirées, physiquement, mentalement, c'est un petit peu dur, quoi. Et puis, quand on peut le faire quand on a 19, 20, 21, 25, 26. Ok, après, au bout d'un moment, ben, peut-être qu'il y a moins d'énergie, il y a moins de foi, il y a pas mal de choses qui font qu'on se sédentarise et qu'on arrête. Mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui reprennent et qui continuent à faire ce genre de choses. En tout cas, je l'espère. Hein.
J'y
participe. Il y a des gens qui assurent la relève.
C'est ça que montre le bouquin de Guillaume aussi. On n'est pas dans d'autres régions, on ne bouge pas tous. Il y a des personnes qui se sont plus ou moins retirées, mais il y a des sound systems qui sont jeunes, qui continuent, qui font des soirées, qui font des calages, c'est-à-dire le début de la free party, ce qu'on appelle aujourd'hui des calages. C'est des petites fêtes dans la forêt où il n'y a pas grand monde, où il n'y a pas un énorme son, où quand tu pars, c'est propre. Enfin, c'était comme ça que c'était les free parties il y a 15 ans, quoi. C'est différent. Les sound systems, on va dire, entre guillemets, vieux de la vieille, comme les Hérétiques ou comme nous, bah, tu fais des événements qui sont différents. Hérétiques, ils ont fait l'Olympia. Ils ont fait des soirées payantes, entre guillemets, commerciales, mais voilà, c'est leur évolution. On ne peut pas critiquer ça non plus. Nous, on a fait des soirées au doc, on n'a pas fait que de la free. Tous les sound systems qui tournent encore aujourd'hui, qui tournent depuis plus de 10 ans, ben, ils ne font pas non plus que de la free, même s'ils continuent pour la plupart à faire encore des événements gratuits. Et il y a toujours des sound systems qui sont émergents, comme c'était un peu au départ, même si évidemment l'événement, ce n'est pas le même. Enfin, nous, personnellement, on a fait des soirées où c'était Pernaud au 13h qui disait « Ah bah tiens, il va y avoir ça ce week-end en soirée » ou même pour le Technival du Larzac qui était un des Technivals organisés, un des Sarcovals après les lois Mariani. Bon bah les gens, ils étaient au courant du Techni parce qu'ils le voyaient aux 20h sur Claire Chazal ou PPDA. Donc évidemment, c'est pas du tout la même chose que quand le Technival, il y avait 500 fly qui tournaient et que tu te sentais privilégié d'avoir le fly et l'info.
Il n'y avait pas de téléphone portable.
Il n'y avait pas de portable, mais une infoline 3672.
Sur l'infoline du Technival...
...à Villefranche-sur-Saône, sur la A6. Pour ceux qui viennent du sud, rendez-vous au péage de Vienne sur la A7. Je rappelle, confirmé, rendez-vous péage de Villefranche-sur-Saône et péage de Vienne.
Pour ceux qui ont réussi à passer, la fête peut commencer.
Avec du son dans les oreilles.
Le fait de participer à des Technivals, de passer aux 13h, de la contestation du départ et des revendications de la free revendicative, entre guillemets. Quoi.
Nous, on a profité, je pense, de l'incapacité de la police, tout ça, à gérer ce qui se passait. Pendant les premières années où moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des soirées, ok, les flics venaient, mais on n'avait aucun souci. Ça se passait, on pouvait aller facilement en France, Espagne, Italie, Portugal, ils n'étaient pas connectés, il n'y avait pas vraiment de soucis encore à ce moment-là. Les fêtes commençaient à être conséquentes au nombre de personnes, mais c'est dès que ça commençait à structurer au niveau de la loi et au niveau juste surtout des médias, en fait, je pense que c'est plus les médias qui ont apporté un gros souci qu'autre chose, c'est à partir de là que c'est devenu plus difficile. Donc j'imagine qu'au jour d'aujourd'hui, organiser des free parties, ça peut aller un petit peu plus loin au niveau juridique que quand nous on a commencé, en tout cas.
Après l'engouement médiatique dont parle Zoul, après le moment où ça passait aux 20h, où tout le monde en parlait, où ça a été extrêmement visible pendant 3-4 ans maxi, sont revenus ces petits calages dont parle le Zoul, ces petites fêtes, mais il existe aujourd'hui des centres système, des jeunes, qui poursuivent l'aventure, qui le poursuivent même de manière très engagée, c'est-à-dire qu'ils sont travelers, qui vont voyager dans tous les pays d'Europe toujours, mais qui organisent aussi des grosses fêtes, y compris en France, et y compris de façon clandestine. Nous, quand on y retourne, ça a un côté de réchauffé, ça a un côté un peu réchauffé, un côté de redite. Forcément, on ne retrouve pas peut-être la même ferveur, la même originalité, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui découvrent ça, il y a une flamme, il y a quelque chose qui leur parle. La musique a énormément changé. La musique n'est plus du tout la même. Généralement, c'est devenu beaucoup plus calme, d'autres genres, d'autres manières de le faire. Ils font parfois avec la loi. Ils font parfois avec une autorisation de terrain ou une autorisation d'un propriétaire, etc. Mais ils essayent d'en faire le moins possible dans les concessions. Et il existe toujours même des grosses fêtes qu'on peut appeler encore vraiment des free parties, des fêtes pratiquement complètement libres.
Madame, monsieur, bonsoir. Une rave party a dégénéré le week-end dernier.
Les policiers ont débarqué au milieu de 400 jeunes.
Pour interrompre la rave, de violents affrontements ont éclaté.
Alors, dispersion!
Alors justement, qu'est-ce que la loi laisse comme marge de manœuvre actuellement ?
Aucune idée.
En vérité, elle laisse une certaine marge, à savoir à partir du moment où on a l'autorisation pour un terrain, ce qui change considérablement les choses, parce que c'est vrai que les terrains étaient squattés en immense partie, la police peut être beaucoup plus conciliante. Selon les régions de France, on parle de la France, il y a des endroits où ça se passe quand même beaucoup mieux, où ça ne déclenche pas de vagues énormes parce que les médias s'en sont quand même largement désintéressés. Les médias, ils s'y intéressent aujourd'hui quand il y a un mort, quand il y a quelque chose qui se passe mal et ils font leur même stupidité habituelle. Je veux dire, c'est rien de nouveau là-dessous sous le soleil. Après, c'est plus évidemment un mouvement qui sera comme ça a pu l'être, un mouvement qui est devenu quand même, et ça aussi c'est un problème qui est arrivé, un mouvement de masse.
J'ai juste une précision à ce niveau-là, c'est que le mouvement il est devenu de masse en France. Et en Tchéquie peut-être, en Italie peut-être, mais pas ailleurs. Si, peut-être en Angleterre, mais ça je ne suis pas spécialiste de l'Angleterre. En tout cas, la France est le seul pays où le mouvement est devenu aussi grand, et où il a généré autant de suivi médiatique, autant de suivi politique. Alors là, je ne sais pas s'il y a une véritable explication, c'est ça qui est bien dans le bouquin. Évidemment, j'étais d'accord avec ma théorie sur pourquoi est-ce que la France était le pays de la free party. Il y a une demi-douzaine d'explications du pourquoi est-ce que la France a été le pays de la free party. Je ne sais pas si on trouvera vraiment la vérité. En tout cas, donc, c'est important de préciser. Et l'autre truc qui est important de préciser, c'est que pour moi, free party, c'est indissociable du voyage. Tous les gens qui ont témoigné dans le bouquin ne sont peut-être pas d'accord ou n'ont pas généré la free party de cette manière-là. Mais c'est une des raisons pour garder cette fraîcheur, c'est d'aller ailleurs. Et c'est un peu comme ça que nous, pendant plus d'une dizaine d'années, chaque fois qu'on sentait que ça commençait à tourner en rond, on allait ailleurs. On allait dans un autre pays, on arrivait, on posait quelque chose. Donc le voyage, c'était super important. Et c'est ça aussi qui nous a fait triper dès le début sans qu'il y ait de message, c'est que les premières personnes qu'on a vues débarquer, et qui sont d'ailleurs ici, dans l'assistance, mais pas toutes, c'était Spiral Tribe, et que Spiral Tribe, c'était des gens qui venaient d'ailleurs, on aurait dit des aliens. C'était des aliens qui arrivaient, et nous, on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vécu ça, il n'y avait jamais rien eu de ce type-là avant, et quand ils ont débarqué en France, en Europe, ça a été comme une météorite qui tombait sur l'Europe. Et on a essayé par la suite de faire que la météorite rebondisse dans tous les autres pays, et que ça soit tout le temps frais, ça c'est mon analyse.
On a piétiné de l'herbe. Vous voyez le tas de déchets là. Ça va dans les camions. Il restera rien quand on sera parti. Vous pouvez voir, c'est propre. Voilà.
Dans le voyage, la tenue modèle du teufeur, le camion, la tenue un peu kaki, baroudeur, le chien
essentiel. Ouais, mais ça c'est arrivé comme ça. Hein. C'est pas. Après, c'est vrai que il y a eu un phénomène de mode qui s'est installé principalement en France. Mais bon, voilà, c'est arrivé comme ça, c'est tout. Le chien, il y était parce que le chien, c'est un élément de la personne qui est sur la route. C'est pas juste un élément du traveler techno. c'est un élément de la personne qui est sur la route, parce que le chien est essentiel, parce que c'est ton compagnon, quoi.
Oui, et puis c'est un compagnon, ça garde le camion. Enfin, quand t'as toute ta vie qui est dans un véhicule, tu te retrouves avec ton gros poids lourd, tu veux aller chercher une baguette, tu peux pas, tu bouges pas. C'est, enfin, ça peut être des fois un petit peu problématique. Donc, le vestimentaire, bah oui, voilà, on est tous ensemble, on se regarde, on se ressemble. Tiens, voilà, c'est cool, on va mettre un truc... Ça se fait tout seul, quoi, mais je pense pas qu'il faille s'arrêter sur ce genre de choses, quoi. C'est... Je suis habillé encore en noir, enfin, voilà, ça a pas trop changé, j'ai encore deux chiens même, sauf qu'ils sont dans un appartement, mais voilà.
Non mais puis en plus quand tu vis sur la route et que tu vis en camion, en général il vaut mieux t'habiller en frein qui se voit pas si tu te salis.
Oh, les chaussures Gucci en camion, ça collait pas. Mais c'est le principe de la massification, c'est ce qu'on disait au départ. Dans un camion, moi en camion, j'allais pas être en escarpin talon, tu m'as bien compris. Enfin,
pourtant,
bien...
je t'ai vu en escarpin talon.
Ouais, mais ça, c'est intime, on n'en parle pas. Après, effectivement, ça s'est massifié, c'est des images contournées, c'est des soirées qui sont devenues de plus en plus nombreuses. Il y a des gens qui ont vu ça comme un phénomène de mode, je juge pas, je m'en fous, c'est pas la question n'est pas là. Mais effectivement, quand ça devient plus nombreux, quand il y a plus de gens qui vivent le truc, même qui le vivent à part entière, sans être bandeur, quoi que ce soit, et ben effectivement, tu vas voir de plus en plus de gens qui vont être habillés pareil, qui vont faire la même chose. C'est ce qu'on entendait dans le film quand il disait les petits pois, bon ben voilà, c'est rigolo. Mais après, il ne faut pas réduire la fête à ça. Il y avait là aussi des images. Si tu es allé en teuf, tu l'as vu. Il y a aussi de la couleur. Il y a aussi des gens fluo. OK, la France, on était quand même beaucoup comme ça, en kaki. Mais quand tu fais des fêtes en France, mais aussi en Italie, aussi ailleurs, tu vois beaucoup de couleurs. Tu vois des gens fluo. Enfin, c'est aussi un peu une caricature de dire l'image, le teufeur, le chien, le camion. Effectivement, t'es une bande de potes, t'es une meute de potes, bah, t'as une meute de chiens, bah, ouais, ça va ensemble, c'est le côté routard, comme tu disais. Les gens sur la route, bah, souvent, ouais, effectivement, ils ont des chiens, ils ont un compagnon. Quand t'es tout seul, que tu te fais des grosses sessions, bah, t'es bien content d'avoir ton clébard avec toi, c'est sûr, c'est indéniable. Mais c'est un peu aussi une caricature de le réduire uniquement à ça, parce que c'est pas que ça, quoi. Regarde ce soir.
En vert.
Je suis en vert.
Et puis on n'avait pas trop le temps de faire les magasins aussi, c'est-à-dire faut
que c'est essentiel, ça aussi.
Pas la thune.
Surtout, ouais.
Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre, Free Party, l'histoire des histoires, non. Il est disponible côté bar, avec les éditions Le Mot et le Reste. Il y a un micro ici, si quelqu'un dans la salle a une question, ou plusieurs.
Ah, c'est pas fini.
Une question du public.
Je me dévoue. Je mets le micro dans la bouche, ça on entend bien. Tu disais que c'était... Donc, tu avais tes 42 entretiens, etc., et que c'est des histoires individuelles et qu'il n'y a pas d'histoire au sens des historiens du mouvement techno ou des mouvements des free parties, etc. Et voilà, c'est pas pour jeter un pavé dans la mare, mais pour discuter. J'ai l'impression, même en écoutant, par exemple, je ne sais pas comment tu t'appelles, là, des occupés, qu'au contraire, il y a bien une histoire qui n'est pas écrite. Elle est peut-être à écrire et ce serait bien que ce soit les gens qui sont acteurs du mouvement qui l'écrivent, mais par exemple on prend systématiquement...
Il y aura un film, normalement ouais. C'est Brad Pitt qui fait mon rôle.
Ouais. Non, mais
et Angelina ça, c'est... Jolie qui fait le rôle de Zool.
Ça c'est pas l'histoire justement. Par exemple, on prend systématiquement la loi de Thatcher, la criminelle, je sais plus comment, qui fait que les Spiral Tribe viennent en France comme le début des mouvements des free parties en France. Ça, c'est bien de l'histoire au sens de l'histoire que travaillent les historiens. Quoi. Bah,
ne serait-ce que sur cette anecdote ou cette histoire officielle, je ne sais pas, sur les trois personnes que j'ai interviewées des spirales, chacun a sa version de la venue en France. C'est-à-dire que certains n'avaient pas forcément envie de partir d'Angleterre, sont restés le plus longtemps possible, c'est Seb en l'occurrence. D'autres, au contraire, sont venus à cause de la loi, puis d'autres sont venus à cause d'autres choses. Il y a d'autres raisons. Enfin, chaque parcours est aussi un peu personnel, mais je ne veux pas parler en leur nom. Mais ça, c'est des gens qui me l'ont dit, donc qui l'ont
écrit. Je suis d'accord. Mais si tu rentres dans le détail, tu vas toujours... Même si tu regardes 1789, tu vas regarder chacun comment il a vécu le truc, etc. Et tu t'aperçois que la Révolution française...
De toute façon, l'histoire, il n'y a pas une histoire avec un grand H, c'est impossible pour quoi que ce soit.
Voilà.
Mais je pense que pour la free party, c'est encore plus difficile de faire un truc... Il y a une chronologie à la fin du bouquin, de dates, mais même cette chronologie, elle est subjective quelque part.
Ok. Mais je pense qu'il y a en tout cas un travail intéressant à faire là-dessus. Il y a bien des moments qui marquent, comme quand Sarkozy commence à essayer de canaliser le mouvement, etc. Il y a bien un tournant à ce moment-là, quoi. Quand les Spiral Tribe viennent en France, il y a bien un tournant qui marque le mouvement. Après, que ce soit vécu de manière très différente par les gens individuellement, etc. C'est évident, quoi. C'est, voilà, on est, chacun fait son expérience à soi, quoi.
À l'origine des Technival, une tribu nomade anglaise, les Spiral Tribes, chassés de leur pays par le gouvernement Thatcher.
Les risques résultant de l'organisation de rave party.
Dans un mouvement qui revendique l'autonomisation des gens, comme ça l'a été quand même, c'était la recherche d'autonomie et de liberté, c'est très difficile en tout cas de trouver une ligne d'interprétation d'un événement, qu'il soit politique ou autre. Même sur la question de la politique, chacun va dire, il y en a qui vont dire même que ça a été un bien, parce que ça a changé des choses,
de quoi, justement, Sarkozy,
un phénomène de masse. Ouais. Il y en a qui le pensent comme ça.
Oui, mais...
Il y en a qui disent, mais ça aurait dû se faire bien avant, le mouvement était mort avant. Il y en a qui disent, c'est ça qui l'a tué. Il y en a qui disent, dans un mouvement comme ça, où chacun cherche justement... l'autonomisation, je cherche à libérer sa manière de vivre et sa parole. C'est même impossible de trouver comme ça une histoire qui va contenter et qui va satisfaire tout le monde. Absolument impossible. C'est pour ça que cet axe, il a été suivi et je pense, moi, personnellement, j'aurais pas pu en prendre un autre là-dessus.
D'accord. Voilà. J'en profite comme j'ai le micro. Il y a un autre élément que je trouve qui pourrait être intéressant à interroger. Vous intervenez toujours en disant, mais je ne peux pas parler au nom du groupe, au nom du collectif, au nom de... Donc, je parle en mon nom, et en même temps, j'ai l'impression, pour l'avoir vécu un peu, mais beaucoup moins que la plupart des gens qui sont ici, un des éléments qui était très important dans le mouvement, qui est peut-être encore toujours important, c'est la notion de collectif, quoi, et de s'engager dans un collectif, etc., et une vie plus ou moins communautaire, etc. Et je trouve que c'est très paradoxal de, à la fois... de revendiquer cette dimension communautaire et en même temps de dire mais attention, je suis qu'un individu et il n'y a pas la communauté, quoi.
Mais attention, tu fais partie d'un groupe, tu vis des choses avec ce groupe, mais t'empêches pas les gens de penser ce qu'ils pensent. Forcément, tu restes avec eux vu que tu te sens bien avec eux et les choses que tu veux faire, tu les fais avec ce groupe de gens. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, sur les questions que Guillaume m'a posées, je dis les choses comme je les ai vécues. J'ai pu en rediscuter avec des amis. On a vécu la même chose au même moment, tous ensemble, et on n'a pas du tout la même vision. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien préciser et dire non, moi, c'est moi ce que je ressens, c'est ce que j'ai vécu moi. Et mon pote qui était avec moi à côté, la même scène, il l'a peut-être interprétée et vécue différemment.
Il y a quand même des lieux communs, la transgression, les fêtes...
Ça peut être aussi un truc de modestie, oui, c'est clair. Mais si tu m'avais posé la même question il y a 10 ans, je t'aurais répondu presque au nom du groupe, en fait. Et j'aurais tenu un discours qui aurait compris la globalité du sound system, et ce qu'on faisait, et on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et c'est vrai que là, voilà, maintenant, pour parler honnêtement, ben, voilà, là, on n'en fait plus partie, et on le fait plus, quoi. Bon, enfin, pour recentrer le débat, oui, effectivement, l'important du truc, effectivement, c'est le collectif. Et nous, on parlait de nos expériences, et on ne peut pas inventer les expériences des autres, on ne peut pas parler d'autre chose.
Il faut voir aussi que dans le bouquin, c'est nos expériences personnelles que tu nous as demandé de raconter. Donc ici, on est là par rapport aussi à la sortie du bouquin de Guillaume. Et ce bouquin, c'est nos histoires à nous, perso. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on en parle comme ça. Après, l'énergie qui est commune, quoi qu'il arrive, elle vient avec des ramifications à la base de l'énergie de chacun, du power de chacun. Ici, moi, en tant que telle, je ne peux pas te parler de toutes les ramifications qui font l'énergie de mon son de système. Je te parle de la mienne, c'est le principe du bouquin, chacun raconte son itinéraire, raconte en quoi la frise a bouleversé sa vie et en quoi aujourd'hui, qui on est en tant qu'individu, c'est aussi grâce à ça.
Comme tu dis, en fait, Zoul, en fait, c'est qu'une identité d'un groupe, c'est plein de personnes. Ce groupe existe parce qu'on est tous des individus différents. Et dans l'acceptation de cette différence, en fait, finalement, ça donne des choses magiques.
On n'est pas un... Oui, quand on parle, Hérédic, c'est ce qu'il disait aussi dans le film, on est devenu une famille. C'est, moi, mes potes, c'est clair que c'est mes frères, mais on n'est pas un. On n'est pas une identité. On fait partie de cette unité sans être une unité.
J'ai un chapitre qui s'appelle « Électrons libres » avec des gens. Bah d'ailleurs, Cagnard a été fondé notamment par Mintou, par Marco et par Raph. Et le label Cagnard, qui était un peu à la base de la scène techno, d'une certaine partie de la scène techno marseillaise, ce label Cagnard, notamment, a généré donc cet électron libre qui est Mintou, qui n'a jamais voulu se rattacher à un sound system, qui a vécu aussi sur la route toute cette aventure et qui n'a pas appartenu à un sound system. Et dans ce chapitre électron libre, il y en a d'autres. Il y aurait pu y en avoir beaucoup d'autres. Et ces électrons libres, moi, j'estime qu'ils font autant partie du mouvement et qui ont autant apporté au mouvement aussi que les sound systems, évidemment, qui ont été très importants.
Ok, que chaque groupe de potes se dise que chaque pote est important et que s'il y a un pote qui est par terre, faut le relever et voilà.
Une autre question ? Justement, on va arrêter parce que Fedje doit mixer. On va écouter sa musique.
Mais j'aimerais juste faire une mini-conclusion à moi, donc personnelle.
Oui, de toute façon, t'es individualiste comme mec.
Exactement, hein. Quoi, à fond.
Tu fais ça pour tout le monde.
C'est qu'en fait, l'avantage de ce bouquin, donc, c'est qu'il permet d'analyser en profondeur quand même, l'air de rien, parce qu'il y a quand même combien de témoignages ? 42 témoignages. Un mouvement de sa genèse jusqu'à maintenant, comment il existe maintenant, et si ça peut ensuite générer d'autres moyens d'action, donner l'envie à d'autres personnes de faire la même chose ou d'aller plus loin ou de faire quelque chose de peut-être différent mais qui va toujours dans le sens du collectif, d'aller mieux, de vivre mieux, tout ça, je trouve que voilà, ça serait cool, quoi.
Guillaume, le dernier mot à l'auteur peut-être ?
Non, il a fait une belle conclusion, Raph, je lui laisse la conclusion, il est fort pour les conclusions.
Merci à tous. Free Party, une histoire des histoires. Guillaume Kosmicki, les éditions Le Mot et le Reste. Il y a un lien direct avec Le Mot et le Reste sur leur site internet. Et puis, on va écouter Fudge pour terminer la soirée. Et c'est parti. Merci Fudge, merci à tous.
Crazy town.
This is crazy town. This is crazy town. This is crazy town. This is crazy town.
We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute des ondes de Radio Grenouille ou sur le www.radiogrenouille.com. C'était l'émission spéciale Free Party, une histoire, des histoires. Un livre de Guillaume Kosmicki paru aux éditions Le Mot et le Reste. Cette rencontre était enregistrée le 10 novembre 2010 et Guillaume Kosmicki rencontrait Raph d'Occupé Sound Conspiracy, Zoul de Metek et Emric d'IoT Records qu'on retrouve tous trois dans son ouvrage. Robex animait le débat tandis que Fudjay se livrait au DJ set qui clôturait cette rencontre au Dakiling. Free Party, une histoire des histoires est disponible aux éditions Le Mot et le Reste. Restez calés sur Radio Grenouille.